Nous lirons cet après-midi dans le chapitre 7 des Actes, à partir du verset 51, la fin du chapitre 7 et les deux premiers versets du chapitre 8. Jean de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères vous aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, lequel maintenant vous, vous avez livré et mis à mort. Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, et ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles et d'un commun accord se précipitèrent sur lui. Et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit. Et Saul consentait à sa mort. Or, en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem, et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Et des hommes pieux emportèrent Étienne pour l'ensevelir et menèrent un grand deuil sur lui. Dans le chapitre précédent, nous avons pu voir ce matin les détails qui concernaient la vie de service de ce disciple Étienne. Nous avons vu qu'il avait manifesté tout au long de sa vie, et nous en avons souligné les caractères du divin serviteur, Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Dans le premier paragraphe, nous avons vu les conditions qui régnaient dans l'assemblée et qui... L'opposition qui s'était établie entre les Hébreux et les Hellénistes, condition dont Dieu s'était servi pour amener l'Assemblée à être administrée d'une façon qui correspondait à sa pensée. Et nous avons vu que 7 disciples avaient été choisis, dont Étienne, dont il est dit « homme plein de foi et de l'Esprit Saint ». Nous avons souligné les caractères généraux qui conviennent à un serviteur, plein de foi, rempli de l'Esprit Saint, plein de grâce au verset 8 et de puissance. Ces 4 caractères qui sont nécessaires pour accomplir un service selon la pensée du Seigneur. Nous avons souligné aussi les 3 caractères du Saint-Esprit, un esprit d'amour, de puissance et de conseil. Conseil, et la note nous dit dans l'épître à Timothée, sobre bon sens. Et ce sont des caractères que Étienne a manifestés d'une façon pratique et remarquable tout au long de son service. Nous avons souligné les points communs qui donc étaient les caractères de ce disciple, de ce serviteur, avec le Seigneur Jésus lui-même lorsqu'il était ici-bas. Et nous avons vu que jusque dans sa mort, sans anticiper en aucune manière ce que nous allons dire ce soir, jusque dans sa mort, il a présenté des caractères identiques à celui du Seigneur. Bien sûr, comme homme et non pas comme sauveur, mais enfin, il a présenté des traits communs. Et nous avons vu encore de quelle façon... Après, il avait annoncé l'Évangile et de cette manière-là, s'était heurté à l'opposition des chefs religieux du peuple qui l'ont l'ont pris, se sont emparés de lui et par des faux témoignages ont réussi à l'accuser de blasphème et à l'entraîner jusque devant le Sanhédrin pour être jugé. Mais les caractères que présentait ce serviteur avaient une telle influence en lui, dans son cœur et dans son esprit, qu'à la fin, nous voyons que Dieu a permis qu'il puisse refléter sur son visage des traits comme le visage d'un ange. Nous en avons conclu que c'était une réponse que Dieu permettait à ce serviteur, comme il peut le permettre à d'autres, que en raison de nos attitudes et de notre foi, nous pouvons manifester la paix, la sérénité qui sont dans nos cœurs et présenter un visage qui frappe ceux qui sont autour de nous parce que cela reflète, c'est la paix intérieure qui nous est donnée par Jésus-Christ lui-même. Nous avons remarqué aussi que dans le chapitre 7, que nous n'avons pas lu, nous avons remarqué que Étienne fait un exposé remarquable, un résumé remarquable de l'histoire du peuple, soulignant en particulier que contre tous les serviteurs que l'Éternel avait institués pour les conduire, pour les diriger dans leur vie de nation, de peuple, ils avaient toujours refusé, ils avaient toujours rejeté les serviteurs, et jusqu'à la fin où ils ont rejeté le juste, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous en sommes arrivés à la conclusion de son exposé, où il peut leur dire des paroles très dures, très sévères, « gens de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit-Saint ». Nous avions souligné que le peuple avait d'abord résisté à Dieu, ensuite avait rejeté le Seigneur, et là, dans cette circonstance, rejetait le Saint-Esprit. Nous allons voir ce qu'il va en advenir pour ce serviteur remarquable qui a ainsi, tout au long de son ministère, qui pourtant a été très court, les caractères du Seigneur lui-même.
Il est beau de voir Étienne bien commencer sa carrière. Et ce que nous allons voir cet après-midi, c'est comment Étienne termine sa carrière. Il était rempli de l'esprit au tout début de sa carrière et comme nous l'avons lu, il termine sa carrière rempli de l'esprit. Bien commencé et bien terminé. Le secret pour aller ainsi jusqu'au bout de la course se trouve peut-être fourni dans ces deux exhortations de l'apôtre bien en rapport avec notre sujet. Je pense à Éphésiens 5, 18 que nous connaissons tous, fin de ce verset. Soyez remplis de l'Esprit. Et à cette deuxième exhortation de l'apôtre, du même apôtre, que nous trouvons dans Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole du Christ habite en vous richement. Être rempli de l'Esprit, nous l'avons déjà dit ce matin, chaque enfant de Dieu, chaque croyant né de nouveau possède le Saint-Esprit, c'est une chose certaine, ce qui ne signifie pas et qu'il est obligatoirement rempli de l'Esprit. Et la question pratique que nous avons à nous poser est celle-ci. Laissons-nous agir l'Esprit dans notre vie. Lui, laissons-nous toute la place. Et pour illustrer cette pensée, nous pensons à Genèse chapitre 24, où nous voyons un type de l'esprit bien connu, nous en parlons souvent, il s'agit d'Eliézer, le serviteur d'Abraham. Ce chapitre 24 de la Genèse a été maintes fois médité parmi nous. Nous Voyons donc que lorsque Eliezer eut découvert Rebecca, il posa des questions. Verset 23, « Y a-t-il pour nous dans la maison de ton père un lieu pour y loger ? Y a-t-il de la place pour nous ? Pouvons-nous loger dans ta maison ?» Dans la maison de ton père, et la réponse est des plus positives. Il y a de la place, verset 25, et la bande même répondra positivement. Et alors, le Saint-Esprit, Eliezer, peut donc entrer dans la maison, et le voilà qui parle d'Abraham, le voilà qui parle d'Isaac et de ses richesses et de sa position. Alors la question est celle-ci pour nous, toute pratique. De quelle manière, de quelle façon laissons-nous le Saint-Esprit agir dans notre vie ? A-t-il de la place dans nos cœurs ? Alors que la parole du Christ habite en vous richement, deuxième exhortation de l'apôtre, il s'agit non pas de la parole en général, mais de la parole du Christ, c'est-à-dire des pages de l'Écriture et qui spécialement nous parle du Seigneur Jésus, de sa personne, de ses gloires. Or, la parole du Christ habitait richement en Étienne, chez Étienne. Nous ne voulons pas voir le discours en détail, mais nous voyons bien que lorsqu'Étienne lisait l'histoire de Joseph, il voyait en Joseph Christ. Lorsqu'il lisait l'histoire de Moïse, Moïse incompris, Moïse rejeté, il comprenait que Moïse, c'était Christ. Voilà donc Étienne lisant l'Écriture. En somme, quand a-t-il commencé sa lecture des Écritures? Depuis sa jeunesse, très certainement. Alors, nous pouvons nous poser cette autre question, si nous voulons bien terminer notre carrière, nous pouvons nous la poser. La parole du Christ habite-t-elle richement en nous ? Découvrons-nous dans cette parole les aspects divers de la personne du Seigneur Jésus ? Remarquons ce que l'apôtre dit, richement, abondance, en abondance. Et l'apôtre dit, en nous, dans nos cœurs. Nous être ainsi d'un bout à l'autre de notre carrière rempli d'esprit d'une part, et puis que la parole du Christ habite en nous richement. C'est ce qu'avait expérimenté ce témoin Étienne.
Le témoin y rend témoignage. Dans ce chapitre 7, les versets que nous n'avons pas lus, à toute la fidélité et toute la patience de Dieu dans toutes les périodes de la vie d'Israël, qu'il reprend depuis son début, Abraham, et qu'il va suivre jusqu'à la fin. En insistant essentiellement, mais nous n'entrons pas dans les détails parce que ce n'est pas notre sujet, sur deux serviteurs, Joseph, Moïse, qu'il présente là, on vient de le rappeler, comme des types d'un plus grand qui devait venir après eux. Et Joseph nous est présenté comme un type d'un Christ rejeté, il est rejeté de ses frères, et Moïse nous est présenté également comme un type d'un Christ rejeté, lui aussi est rejeté de ses frères, qui ne le comprennent pas, au moment où il a tué l'Égyptien. Ceci pour arriver à cette conclusion, que les hommes qui ont été envoyés en Israël autrefois, ils ont été rejetés. Les prophètes qui ont annoncé le Christ qui devait venir ont été rejetés. Le Christ est venu à son tour et lui a été rejeté. Et maintenant, le message qui est délivré, comme on l'a dit ce matin, le serviteur s'efface entièrement. Il faut à l'image de Jean le Baptiseur, que moi je m'efface, que lui croisse et que moi je diminue. Ce n'est plus Étienne qui parle aux Juifs, aux autorités, au peuple, à l'ensemble. C'est le Saint-Esprit par le canal de ce serviteur effacé. Et de même que le message délivré autrefois par les prophètes et les patriarches et d'autres avait été rejeté, de même que celui de Christ lui-même, un Christ abaissé, un Christ humilié, avait été rejeté. Le message de l'Esprit, parlant au nom d'un Christ glorifié, parlant au nom d'un Christ exalté, va à son tour être rejeté. Page solennelle et tournant solennelle pour la nation d'Israël. Et alors ce sont surtout donc les derniers versets de ce chapitre que nous allons considérer.
Les derniers versets de ce chapitre, je voudrais relever dans la vie du Seigneur, sur laquelle la vie d'Étienne était modelée. La vie du Seigneur Jésus était plein de l'Esprit, dans Luc 4. Or, Jésus, plein de l'Esprit Saint. Et je voudrais lire le verset 18 de Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre ceux qui sont foulés, pour publier l'an agréable du Seigneur, et employé le livre, juste à l'endroit où il devait l'employer. Parce que si nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, qui est à la note, eh bien nous lisons « Et le jour de la vengeance de notre Dieu ». Le jour de la vengeance de notre Dieu. Alors, pour rester dans ce chapitre 4, nous voyons, « Et l'ayant poussé, le Seigneur dit, cette écriture est accomplie, vous l'entendons. Et l'ayant poussé hors de la ville, ils veulent le jeter du bord escarpé de la ville, et le Seigneur passe au milieu d'eux. » Venons maintenant à la personne d'Étienne. Il est dit au verset 49e, c'est la fin du discours d'Étienne. Le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Eh bien, si nous lisons dans le prophète Ésaïe, il est dit, nous pouvons prendre ce passage en Ésaïe 66, versets 1 et 2. Les cieux sont mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle est la maison que vous me bâtirez et quel est le lieu de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ces choses ont été, dit l'Éternel. Et Étienne s'arrête. Mais si nous continuons dans le prophète Ésaïe, il est dit, mais c'est à celui-ci que je regarderai, à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Étienne ne prononce pas ces paroles. Il semble qu'Étienne, poussé et rempli de l'esprit, ne peut pas prononcer ses paroles. Le peuple est là devant lui, rempli de rage, d'aigreur contre lui. Il veut le mettre à mort, il veut le pousser hors de la ville comme le Seigneur lui-même. Le Seigneur pouvait dire, cette écriture est accomplie, vous l'entendant, il le rejette. Étienne ne peut pas continuer en disant, c'est à celui-ci que je regarderai, à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Il leur dit au contraire, Jean de Colroide et un circoncis de cœur et d'oreille. Voyons donc combien Étienne est dirigé, étant rempli de l'esprit, est dirigé comme son maître dans ce discernement et cette intelligence qui convient au moment convenable.
Il a été accusé de toutes sortes de choses personnellement. Dans son discours, nous ne voyons aucune justification personnelle. Il ne dit pas, il aurait été facile de dire, je n'ai pas parlé contre Moïse, je n'ai rien dit de tout ce que vous avez répété. Il nous donne là un modèle, Quand il s'agit de nous, cherchons pas à nous justifier. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus important. La parole que Dieu met dans sa bouche et qui était tout à fait en dehors de sa personne, comme s'il n'était pas concerné. Et c'est là, nous disions ce matin, le bilan final de l'histoire d'Israël. La porte va se fermer, s'ouvrir aux nations. Et Dieu fait à plus d'une reprise dans la parole une sorte de tableau comparatif. Si nous pensons au psaume 78, si nous pensons au psaume 105 et 106, dans chaque fois, le contraste entre ce que Dieu a fait pour son peuple, toutes les grâces reçues, et puis la manière dont le peuple a méprisé cette grâce et s'est éloigné toujours plus. Donc bien là, n'est-ce pas, l'acte d'accusation irréfutable, tous ces faits sont indiscutables, ils étaient dans les Écritures, Étienne les connaissait, ses accusateurs aussi, ils ont la bouche fermée, d'ailleurs nous ne voyons aucune réponse, et ils ne pouvaient pas répondre. D'une part, ce que Dieu a fait, ses promesses, ses grâces multipliées, tout ce que Dieu avait fait pour son peuple, qui nous est rappelé à travers ses libérateurs qu'il a donnés, tout ce que Dieu a fait. Et puis voilà l'ingratitude de ce peuple. C'est ce que nous trouvons, justement, psaume 105, voilà ce que Dieu a fait, psaume 106, mais voilà ce que le peuple a fait. On a donc des faits, simplement des faits. Mais alors, cet homme qui était plein de grâce, pourtant, il termine d'une parole extrêmement forte, ce genre de courroie d'incirconcis de cœur, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Bien sûr, dans les Colossiens, il nous est dit d'avoir la parole de grâce assaisonnée de sel, et le sel, à la fin, ne pas négliger la flèche qui touche la conscience quand nous avons affaire à quelqu'un à qui on présente la grâce. Mais il y a le sel, toujours le sel, mais ici, n'est-ce pas, la grâce est rappelée, mais elle est toute du côté de Dieu. Il n'y a absolument rien en faveur du peuple dans ce terrible tableau. Alors, la conclusion est là. Et cette longue histoire, qui nous rappelle des faits connus, elle est nécessaire à cet endroit-là de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire juste au moment où la porte va se fermer pour lui, pour rappeler qu'en retour de tout ce que Dieu a fait, le peuple n'a eu qu'ingratitude et incrédulité. Eh bien, nous pouvons y voir d'une manière solennelle, n'est-ce pas, quelque chose du tribunal de Christ et du jugement qui attend tout homme, le croyant aussi. Mais la grâce est là qui couvre. Mais nous avons le contraste et nous le verrons un jour. Le bilan de notre vie, voilà ce que j'ai fait pour toi et toi, mais la grâce est là, c'est pas pour le croyant, il est sauvé, il appartient au Seigneur, mais les inconvertis auront aussi, et cela nous est présenté d'une manière terrible, chacun d'eux le rappel de toutes les grâces reçues, de toutes les bontés de Dieu, et puis la manière dont ces grâces ont été méprisées. C'est un tableau solennel, il est fait ici d'une manière collective pour le peuple, mais chacun a passé par là un jour.
Les portions d'écriture que nous avons lues aujourd'hui, nous voyons Étienne dans bien des aspects différents. Il commence, si on peut dire, comme une personne ordinaire. Et ensuite, il devient, pour ainsi dire, un lévite, un serviteur. Il apprend comment il faut servir le peuple de Dieu. Et ensuite, publiquement, il devient un prophète. Et à la fin du chapitre 7, il est un sacrificateur. Ce qui est surtout mis en lumière, c'est dans le chapitre 7, c'est son service prophétique. Il y a besoin aujourd'hui, un grand besoin de services prophétiques. Il y a quelque chose qui existe dans les assemblées, c'est de l'instruction. Il y a la vérité objective, mais le ministère prophétique est quelque chose de complètement différent. Les sacrificateurs en Israël n'étaient jamais persécutés. Les bergers n'étaient jamais persécutés parce qu'ils apportaient de la nourriture. Et nous apprécions tous la nourriture, mais quelquefois nous n'apprécions pas la lumière. Et c'est cela que le ministère prophétique nous apporte. Pourquoi Étienne parle tant de l'Égypte? Pourquoi devrait-il parler de Babylone? Parle-t-il tant de Babylone? Ce sont les deux systèmes qui tiennent captif le peuple de Dieu. L'Égypte plus particulièrement parle de captivité. Tout à fait au début, Dieu dit « Laisse aller mon fils pour qu'il me serve ». Babylone, d'un autre côté, parle de corruption. C'est la mère des prostituées. Mais quand nous lisons le chapitre 4 des Actes, il est question de la puissance des Égyptiens. Au chapitre 4 et au verset 3, il est dit « Et ils mirent les mains sur eux et les firent garder jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. » Parce que la puissance de l'Égypte a toujours tenu les peuples de Dieu en servitude. Mais au chapitre 5, au verset 3, « Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre ?» Là, il y avait un problème de corruption. Au chapitre 4, il y avait de la pression extérieure et de la servitude. Au chapitre 5, il est question de corruption interne. Et ces deux choses sont vues typiquement en Égypte et à Babylone. Il ne faut pas s'étonner que dans ces paroles, en parlant d'Égypte et de Babylone, que Étienne a touché un nerf sensible sur ces personnes. Car son ministère adressait aux circonstances dans lesquelles il vivait à ce moment même. Un prophète n'est pas un homme qui divertit les gens. Beaucoup de personnes aiment bien parler à des événements futurs. Pensent qu'un prophète va leur apporter toutes les réponses aux questions politiques. Mais les seules questions qui sont soulevées dans la parole, ce sont des questions morales, d'ordre moral. La résolution de questions morales dans l'Assemblée. Nous devons faire attention à ces choses-là actuellement. Nous devrions faire attention à ce que tout notre ministère ait un caractère prophétique.
On sent bien, en effet, dans cette fin du discours d'Étienne, qu'il soulève la question de l'attachement de ce peuple extérieurement aux choses qui leur avaient été données. La maison de Dieu. Quelle est ma maison? Quelle maison me bâtirez-vous, Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Dieu ne pouvait pas trouver son repos dans la maison, dans le temple actuel. Il était devenu, dit le Seigneur, une caverne de voleurs. Voilà ce qu'ils en avaient fait. Ils maintenaient la lettre, ils maintenaient les formes extérieures, mais l'esprit même, les choses qui leur avaient été confiées, tout cela était abandonné. L'esprit de la loi aussi. Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée, c'est à cela qu'ils vont achoper. Ils arrêtent Étienne. C'est insupportable cette parole-là. Comment nous, pharisiens, fils de pharisiens, descendants de ceux qui ont observé la loi strictement, littéralement, voilà ce qu'on nous reproche, nous n'avons pas gardé la loi.
Eh bien non, vous ne l'avez point gardé. Vous ne l'avez point gardé.
Ils en avaient gardé la lettre, mais nous savons combien ils étaient éloignés de l'esprit de la loi. Le Seigneur les avait condamnés sur cela déjà. Et Étienne est obligé de revenir sur ce point-là, sur ce qu'il y avait dans le cœur. Les formes étaient là, mais la puissance, l'esprit, l'être intérieur, tout cela était étranger à Dieu lui-même, étranger non seulement à ce qu'il avait ordonné pour ce peuple, à ce qu'il avait confié à ce peuple, mais à ce qu'il était en lui-même à travers ces choses. Et c'est cela que le peuple, écoutant Étienne, n'a pas pu supporter. Des formes, mais rien de réel, pas de réalité. Eh bien, cela devrait nous parler à nous aussi. Ils ont frémi lorsqu'ils ont senti cette accusation peser sur eux. Vous n'avez point gardé la loi que Dieu avait donnée dans sa grâce par la main des anges sur la montagne de Sinaï. Et cette loi aurait dû vous conduire à Christ, à la venue du juste. La loi des prophètes annonçait sa venue. Tout parlait de lui. Tout dans la loi des prophètes conduisait à Christ. Et l'apôtre saura évidemment le confirmer. Cette loi a été notre conducteur jusqu'à Christ. Et Christ étant venu, il était là, la réponse à tout ce qui était inscrit dans la loi, la réponse à tous les besoins de ce peuple, la réponse, bien sûr, à nous tous, qui avons trouvé en lui la fin de la loi, en justice à tout croyant. Eh bien, si nous retournons aux choses légales, si nous nous contentons de formes extérieures, eh bien, nous serons aussi roides de coups que ce peuple. Nous ferons semblant de continuer sur ce qui a été enseigné, sur ce qui nous avons reçu par tradition, génération après génération, mais nous oublierons l'essentiel et nous risquons bien de le mettre de côté. C'est l'Esprit qui compte, ça n'est pas la lettre. Et c'est l'Esprit Saint seul qui peut enseigner dans ces choses. Toute la chrétienté a la Bible entre les mains, qu'en fait-elle? Nous ne voyons pas qu'elle soit en dehors du cercle dont il est dit un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais où en sont les choses dans les cœurs? Où en est la réalité spirituelle? Est-elle comprise? Est-elle vécue? L'Esprit Saint seul peut enseigner. Mais il ne faut pas résister. Israël avait déjà contristé l'Esprit de sa sainteté. Nous le trouverons en Ésaïe 63. C'est un reproche qu'il aurait fait. L'Esprit qui était au-dedans de Moïse, au-dedans de lui. Eh bien, cet esprit qui avait agi aux yeux de ce peuple, visiblement dans cette marche au désert, il l'avait contristé, il s'était rebellé. Nous trouverons cette accusation dans les derniers temps de l'histoire de ce peuple, nous la retrouverons au temps où ce résidu fidèle sera obligé de reconnaître ce qu'il a été en ce temps-là, comme aussi dans les temps successifs. Étienne reprend les choses depuis le commencement, depuis Abraham. Et assurément, il faudra que le résidu reprenne les choses aussi depuis ce moment-là pour vraiment s'humilier. Ce peuple était un peuple rebelle. Il n'a pas voulu s'humilier lorsque Étienne, par l'Esprit Saint, leur présente leur accusation et leur jugement de la part de Dieu. Ils étaient rebelles, des gens de Courroide. Eh bien, il faudra que le résidu agisse autrement. Dans un temps futur, ils auront cette même parole devant leurs yeux, sur leur cœur. Il faudra qu'ils se repentent. Il faudra qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont été. Et alors qu'ils supplient pour cette délivrance, et nous trouvons cela dans ce merveilleux chapitre d'Ésaïe 63, où ils pourront invoquer, après s'être repentis de ce qu'ils ont été, « Regarde des cieux et vois, etc. Oh, si tu fendais les cieux, si tu voulais descendre, etc. » Ils supplient, celui-ci seul peut les délivrer, reconnaissant leur culpabilité, reconnaissant leur faute et comment ils mériteront cette tribulation qu'ils connaîtront, l'épreuve ultime qu'ils connaîtront avant de recevoir la délivrance par la nouvelle venue du juste, par celui qui viendra pour les délivrer. Ainsi donc, nous avons affaire là à un peuple de Courroide. C'est un peuple aussi de Courroide que Dieu voulait anéantir lorsque, lors de l'affaire du veau d'or, nous savons bien, cette expression est employée à plusieurs reprises dans le livre de l'Exode, comme aussi dans le livre du Deutéronome. Ce n'est pas parce que vous étiez à cause de votre justice que vous entrez dans ce pays. Vous êtes un peuple de Courroide. Mais c'est parce que Dieu a fait des promesses à Abraham, Isaac et à Jacob. Et c'est parce que Dieu veut détruire ces nations du pays dont Dieu vous donne le pays. Voilà pourquoi vous entrez dans ce pays-là. Mais vous restez et vous êtes encore un peuple de Courroide. Et il demande à plusieurs reprises dans le Deutéronome qu'ils ne roidissent plus leur cou, qu'ils puissent ainsi s'incliner. Circoncisez donc votre cœur, ne roidissez plus votre cou. Ce n'est pas les appels qui leur ont manqué, ni par la loi de Moïse, ni par les prophètes. Ils ont eu Dieu se levant de bonne heure et leur envoyant ses serviteurs les uns après les autres. Et dans la parabole du cultivateur qui avait confié sa vigne à ses serviteurs, il est dit d'eux, battant les uns, tuant les autres. Et c'est ce que nous trouvons là. Battant les uns, tuant les autres, et ils ont tué le Fils bien-aimé, le seul juste. Que leur reste-t-il? Aucun espoir. Ils résistent à l'Esprit Saint. Eh bien, il faudra qu'ils en subissent la peine. Ils la subissent encore. Ils la subiront jusqu'au jour de leur humiliation, de leur repentance, et alors viendra la délivrance pour eux. Mais pour nous, il faut que la leçon soit apprise. Il faut savoir que Dieu ne se contente pas d'une marche extérieure, d'une religion de forme. Il veut la vérité dans l'homme intérieur. Il veut une marche par le Saint-Esprit. Il veut le discernement spirituel des choses, afin que nous ne marchions pas sous le joug d'une loi que nous ne pouvons accomplir, mais dans la pleine liberté de la grâce et de l'Esprit Saint.
Nous arrivons alors au verset 54. En entendant ces choses, il frémissait de rage. Dans leur cœur, et il grinçait des dents contre lui. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint et ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Quel tableau que celui-là! Il était déjà saisissant quand, devant le Sanhédrin, son visage était apparu rayonnant, comme le visage d'un ange. Comme autrefois, on l'a rappelé, avait rayonné le visage de Moïse descendant de la montagne. Et ici, alors que, en bas, on frémit de rage, on grince des dents, les yeux de ce disciple, déjà moralement hors de la terre, délivrant son dernier message, tout entier rempli de l'Esprit Saint, et cela est une fois de plus rappelé, plein de l'Esprit Saint, les yeux attachés sur le ciel, voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Quel merveilleux tableau! Il est déjà hors de la sphère de cette terre. L'Esprit Saint lui ouvre le ciel. Lui ouvrant le ciel, il contemple la gloire de Dieu. Et qu'est-ce finalement que cette gloire divine, sinon une personne, Jésus? Il voit Jésus. Jésus debout, à la droite de Dieu, à la droite, la place d'autorité, mais Jésus, Jésus debout. Et cette expression de Jésus debout est pour nous quelque chose qui nous touche profondément et qui nous étreint. Jésus debout veut dire le dernier témoignage, ce témoignage d'un Christ reçu dans le ciel, un Christ dans la gloire, un Christ que je vois à la droite de Dieu. Encore debout signifie que il est prêt encore, si vous vous repentez, à venir ici-bas. Il est assis. Il est là dans la position du sacrificateur qui était entré le grand jour des propitiations dans le lieu très saint, qui se tenait là debout pour remplir cet office entrant avec l'encens, entrant avec le sang. Il était là dans le lieu très saint pour un petit moment. Jésus nous est présenté là comme le souverain sacrificateur dans le lieu très saint, entré porteur de son propre sang,
entrer avec tout l'encens de sa personne, accueilli par le ciel et la gloire du ciel, mais prêt à sortir, comme l'était le souverain sacrificateur dans ce grand jour des propitiations, prêt à sortir si le peuple se repent encore. Mais il ajoute ceci qui est solennel, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il est aussi Fils de l'homme. » Il ne dit pas Messie, il dit Fils de l'homme. Celui à qui toute autorité est donnée, celui à qui tout l'univers appartient, celui qui nous est présenté dans le psaume 8 plutôt que dans le psaume 2. Le psaume 8. Le ciel ouvert, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme. Le ciel s'était déjà ouvert quand le petit enfant était dans la crèche ou à peu près, et les armées du ciel étaient venues dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » On avait entendu quelque chose venant du ciel. Le ciel s'était vraiment ouvert sur la montagne de la Transfiguration, et alors, le ciel avait considéré la terre. Le Seigneur Jésus est toujours objet. Il n'y a pas d'objet pour lui à considérer. Lui est objet. Le ciel s'était ouvert et le ciel avait considéré là le Fils de Dieu sur la terre, sur la montagne de la Transfiguration. Ici à nouveau le ciel s'ouvre, mais c'est l'inverse. On regarde de la terre vers le ciel, mais toujours la même personne. Celui qui avait été humilié, maintenant là-haut dans la gloire, c'est lui qui reste objet.
Au sujet du ciel ouvert, simplement le rappel de ces quatre passages mémorables où il nous est clairement dit que les cieux furent ouverts. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 16, nous voyons au moment où le Seigneur Jésus est baptisé cette expression, les cieux lui furent ouverts. Le Seigneur Jésus s'unit à ces premiers mouvements que produisait l'Esprit, il s'unit à ce résidu qui était là. Et alors, le ciel, lui, est ouvert. Il est ouvert uniquement pour lui-même, pour le Seigneur Jésus. Et puis, alors, nous avons notre passage, le verset 56, avec un grand changement. Les cieux, je vois les cieux ouverts, pouvait dire Étienne, et nous aussi, nous pouvons dire, et quel privilège, les cieux nous sont ouverts. Et nous pouvons entrer dans le ciel même avec des expressions de reconnaissance. Le troisième passage, bien connu, se trouve dans le 19e de la Révélation, de l'Apocalypse, où nous voyons au verset 11, « Et je vis le ciel ouvert. Le Seigneur Jésus est revenu, a pris son épouse. » Et que le moment merveilleux, les noces de l'agneau ont été célébrées, verset 7. Et puis voici le ciel ouvert. Je vis le ciel ouvert. Et nous voyons le Seigneur Jésus comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous le suivons. Et il va triompher de la bête de l'Antichrist. Et puis nous avons également à la fin du premier chapitre de l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 52, « Désormais, vous verrez le ciel ouvert, je crois ici, en rapport avec une autre économie, avec les temps du millénium. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Chapitre 1 de Jean, verset 52.
Il y a en effet quatre aspects des cieux ouverts, c'est
D'abord, dans l'évangile de Matthieu, ou alors les cieux sont ouverts. Et la parole de Dieu nous dit, au chapitre 3, il est dit, « Jésus, ayant été baptisé, remonta aussitôt de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts. » C'est une question qui lui est personnelle. Et ouais, voici, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » La parole de Dieu met l'accent sur la personne même du Saint-Fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit, « Ne le confondez pas avec les pécheurs que vous êtes. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et voilà, l'Esprit de Dieu descend sur lui et en qui j'ai trouvé mon plaisir. Il y avait enfin sur la terre un juste sur lequel la bénédiction pouvait reposer parce qu'il était celui qui était le bien-aimé, le Fils bien-aimé du Père. Le deuxième passage se trouve effectivement au commencement de l'évangile de Jean. Dans cet évangile, le Seigneur s'adresse à Nathanaël et lui dit, « Tu t'étonnes de ce que je te voyais sous le figuier. Désormais, vous verrez des choses plus grandes que celles-ci. Vous verrez le ciel ouvert et les anges montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Là, ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, nous rappelle ceci, c'est que la relation qui avait été perdue par le péché d'Adam est en quelque sorte rétablie. Il y a une communication, une relation entre le ciel et la terre. Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, eh bien tu verras désormais des choses plus grandes que celles-ci. En vérité, je vous dis que vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » L'accent est mis sur le Fils de l'homme. Le premier passage, le Fils bien-aimé, le Fils de Dieu. Le troisième passage se trouve effectivement dans le passage que nous avons lu ce soir, dans le livre des Actes, et c'est toujours le ciel ouvert. Et dans ce passage, l'Esprit de Dieu nous attire notre attention sur le fait que le Seigneur Jésus est debout. Et c'est l'attitude du souverain sacrificateur qui ne pouvait pas s'asseoir dans le lieu très saint lorsqu'il entrait une fois l'an, non sans du sang. Et il devait se tenir là, allant et venant debout. C'est important de rappeler ce fait, mais nous avons cette expression « Étienne avait les yeux attachés au ciel ». Ça correspond à cette expression que nous retrouvons dans le début du chapitre 12. Après la grande nuée de témoins, nous sommes exhortés à fixer, c'est-à-dire à détacher nos regards des choses de la terre, de les fixer uniquement sur un seul témoin, le témoin fidèle et véritable. La parole de Dieu nous rappelle qu'il y a eu une nuée de témoins, mais il n'y a eu qu'un seul témoin fidèle et véritable. La parole de Dieu mentionne effectivement le témoin qui est Étienne ici, et que nous avons déjà cité ce matin. Elle nous parle aussi d'Antipas, le fidèle témoin. Mais quand il s'agit du Seigneur, c'est dans l'Apocalypse 3:14, le témoin fidèle et véritable. Au chapitre 19, le Seigneur se présente avec ses armées. Et il y a quelque chose d'extrêmement émouvant, c'est qu'il sort avec ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire les rachetés,
Chapitre 19 de l'Apocalypse, le ciel est ouvert. Et nous avons ceci, chapitre 19. Après ces choses, jouit une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant « Alléluia, le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, car ses jugements sont justes et véritables, car il a jugé, etc. » Et nous avons au verset 11 « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus est appelé fidèle et véritable. » Et il juge et combat en justice, et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Ensuite, nous avons un autre nom, c'est la parole de Dieu, et puis le Seigneur est aussi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il y a un nom que nul ne connaît que lui seul. C'est ce qui lui appartient en propre et qu'il ne nous est pas permis de connaître, que lui seul connaît.
Un mot encore sur ces quatre passages. Dans l'évangile selon Matthieu, nous avons donc le ciel ouvert afin que l'Esprit descende. Les cieux lui furent ouverts et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Celui qui était là était Dieu manifesté en chair. C'est l'anéantissement. Ce grand mystère de la piété commence ainsi, Dieu manifesté en chair. Et sa contrepartie, si l'on peut dire, c'est justifié en esprit. Il fallait qu'ainsi, devant un tel anéantissement et devant ce qui a suivi, c'est-à-dire l'abaissement volontaire en obéissance jusqu'à la mort, il fallait une contrepartie. Et Dieu la manifeste. Le ciel s'ouvre pour cela. Celui qui est là est justifié en esprit. C'est mon Fils bien-aimé. Celui qui vient accomplissant toute justice, se courbant la tête sous le baptême de la repentance avec ceux qui sont là repentants, c'est celui qui est le juste, c'est celui qui est sans tâche, c'est celui qui est le Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut descendre ainsi comme une colombe pour demeurer sur celui qui est sans tâche, qui est parfait, qui est le seul juste. Dans l'Évangile selon Jean, comme nous l'avons dit, nous avons affaire à une scène prophétique de l'avenir dans cette fin du chapitre 1er de l'Évangile de Jean. Et elle se termine d'une façon toute naturelle parce que Dieu manifestera en ce temps-là ce qu'il a manifesté au moment où Jacob était proscrit et s'en allait. C'est aussi un ciel qui pouvait s'ouvrir avec une échelle qui, dressée sur la terre, pouvait monter jusqu'aux cieux. Et il a dit que les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Jacob, humilié, Jacob proscrit, Jacob s'en allant comme un fugitif, peut ainsi considérer que Dieu ne l'abandonne pas, que ses promesses demeurent sûres et fermes et qu'il les accomplira. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob, et la terre sur laquelle il était certainement reviendrait à sa descendance. C'est les promesses de Dieu inconditionnelles, et Dieu n'est pas un Dieu qui ne peut mentir. Ainsi donc, cette échelle nous rappelle, entre le ciel et la terre, ces communications divines entre Dieu et son peuple qu'il n'abandonne pas. Même au moment où nous sommes arrivés là, dans cette histoire du peuple, il ne l'abandonnera pas. C'est un peuple rebelle et de courroie, mais il ne l'abandonnera pas. Pour l'instant, il est rejeté. Pour l'instant, il est endurci. Mais, nous dit l'apôtre dans l'Épître aux Romains, c'est un endurcissement partiel qui est arrivé à Israël, Romains 11, afin que les nations puissent entrer par la porte, une porte qui s'ouvre maintenant devant les nations tout entières, et c'est ce que nous verrons d'une manière remarquable dans le début du chapitre 8e. Pour l'instant, la porte se ferme pour Israël, mais Dieu maintient ses droits et Dieu maintient ses promesses à l'égard de son peuple, telle ainsi était la vision de Jacob, et telle aussi est la vision en Jean 1 de ce qu'il manifestera en ce temps-là, dans ce temps millénial. Dieu reprend ses relations avec son peuple, mais ce n'est pas la gloire d'Israël qui brillera, c'est la gloire du Fils de l'homme en Israël. Tout sera gloire parce que le roi de gloire sera là, parce que le Fils de l'homme sera glorifié par toute la terre. Tous les yeux le verront, tout œil le verra, tout genou se ploiera devant lui, la gloire de Dieu par le Fils de l'homme venant, et nous comprenons que le ciel pourra s'ouvrir et les anges monter et descendre. Il y aura ces esprits administrateurs qui seront au service du roi de gloire, au service de celui qui règnera en justice et en paix. Dans le livre de l'Apocalypse, je pense aussi que le ciel s'ouvre afin que nous puissions voir nous aussi, mais il nous faut être là parce que ce ne sont pas des choses qui nous concernent directement dans ce livre de l'Apocalypse. Ce sont des choses qui se passeront après l'enlèvement de l'Église. Bien sûr, l'Église y sera directement intéressée, mais ce sont des choses qui viennent après celle-ci, après l'histoire de l'Assemblée. Et il est bien dit dans ce début du chapitre 4 qu'il y a une porte ouverte dans le ciel. Et il faut monter pour voir les choses qui arriveront après celle-ci. Il faut s'élever à cette hauteur de l'esprit prophétique pour comprendre ce que Dieu a décidé à l'égard de son Fils bien-aimé, de celui qui est la parole de Dieu, de celui qui vient pour juger en justice, avant de régner en justice. Ce sont des choses très glorieuses, mais ce sont des choses qu'il nous faut approcher avec l'esprit simple et humble qui convient. Une porte est ouverte, mais il faut monter pour regarder comme Jean l'a fait, et pour comprendre ce qui va se passer ce jour-là. En attendant, il y a quelque chose de bien plus ouvert pour nous, quelque chose qui n'est plus voilé. C'est ce que Étienne a pu réaliser dans ce moment-là, dans ce moment glorieux où son œil n'était plus attaché aux choses de la terre, où il était véritablement en esprit dans le ciel, contemplant la gloire du Seigneur. Mais c'est notre portion actuelle, celle-là. C'est ce qui nous intéresse alors directement, aujourd'hui même. C'est ce qui nous fait vivre. Si nous n'entrons pas par cette porte pour contempler la gloire du Seigneur, nous ne pourrons jamais saisir la profondeur de son abaissement et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enseigné sur la terre. Tout ceci ne peut être mesuré qu'à la lumière de sa gloire actuelle. Et c'est ainsi qu'il nous faut monter, et c'est ainsi qu'il nous faut entrer dans un ciel ouvert pour nous. Le voile n'est plus. Le voile pesait maintenant très lourdement sur le cœur de ce peuple. Depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, le voile est sur le cœur du peuple, nous dit l'apôtre dans l'Épître aux Corinthiens. Mais il n'est pas sur nos cœurs, du moins j'espère, sur le cœur d'aucun d'entre nous, pour que nous puissions avoir cette vision de gloire et en être transformés en la même image. Étienne était transformé en la même image, comme son maître, comme il voyait son maître. Ainsi, il mourait de la même manière que son maître avait témoigné au moment de sa mort. Ainsi, il nous faut nous aussi le contempler. Si dans la chrétienté, il y a tant de voiles sur les cœurs, si la gloire du Seigneur n'est pas discernée comme elle le devrait, si le voile subsiste non seulement sur le cœur d'Israël, il sera levé plus tard, mais sur le cœur de tant de croyants même, de croyants authentiques dans ce monde, qui ne peuvent vraiment pas découvrir la gloire du Seigneur, la contempler à face découverte, étant placé sous un joug légal ou étant occupé de tant de choses qui ne permettent pas d'entrer par la porte ouverte dans les cieux ouverts, alors, bien entendu, le voile demeure pour eux aussi. Que nous puissions contempler le Seigneur de gloire dans le ciel, c'est la substance même du culte, cela. Si cette épître aux Hébreux, si précieuse pour nous, si importante pour rendre culte par l'Esprit, qui doit être sondé, lu et relu par les jeunes en particulier, de façon à ce qu'ils l'assimilent parfaitement, parce qu'elle est une substance indispensable pour un vrai culte par l'Esprit, eh bien, c'est l'épître des cieux ouverts. Il faut y entrer par cette porte-là, et c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut nous conduire dans ces merveilleuses régions célestes.
La lumière des passages que nous venons de considérer, nous avons la mise en évidence de deux principes qui traversent toute l'Écriture, comme de rails parallèles. Le principe de la grâce de Dieu et de son gouvernement. De gouvernement de Dieu s'exerce à l'égard de tous les hommes, à l'égard de son peuple aussi. Et comme nous l'avons souligné ce matin, ces chapitres que nous méditons constituent un tournant pour le peuple terrestre de Dieu qui va être mis de côté. Selon les lois rigoureuses du gouvernement de Dieu, parce qu'il a résisté à l'Esprit Saint. Le témoignage que le Saint-Esprit a donné à Christ, à l'œuvre de Christ, à son exaltation à la droite de Dieu, à son œuvre parfaite, a été rejeté par les instruments que Dieu n'a cessé de produire pour avertir ce peuple jusqu'au dernier moment. Et nous voyons que Dieu avait déjà dit à ce peuple, comme cela a été souligné en Exode 33, qu'il était un peuple de courroies d'après l'affaire du veau d'or. Mais il y a là un intercesseur qui a été placé dans la fente du rocher et qui a été l'objet de la bonté de Dieu et qui est à même d'intercéder pour ce peuple malgré la folie qui l'a caractérisé dans l'affaire du veau d'or où son idolâtrie a été mise en relief. Et la grâce triomphe en ce que Dieu va rester au milieu de son peuple selon l'intelligence que Moïse avait des pensées de Dieu et qui doit dire « parce que ce peuple est de courroies, reste au milieu de nous ». Nous avons là tout à la fois l'expression de la grâce de Dieu et son gouvernement qui doit s'exercer à l'égard de son peuple car il y a eu un jugement très solennel dans cette affaire du veau d'or. Mais la grâce a besoin d'intercesseurs, de ceux qui se tiennent à la brèche pour le peuple de Dieu. Ici, Étienne se tient effectivement à la brèche et il est plein de l'Esprit Saint, aussi bien comme quand il sert aux tables que lorsqu'il prononce son discours prophétique, que lorsqu'il est en train de se tenir dans la présence de Dieu pour quitter cette terre, martyr, ayant la couronne du martyr, acceptant de partager le sort de son maître dans son rejet. Il n'y a d'autre issue pour ce peuple rebelle qui n'accepte pas le témoignage de ce prophète que le jugement de Dieu. Il sera dispersé dans la mer des peuples. Sans doute le Seigneur apparaît debout, comme nous l'avons dit, et cela correspond à ce que Pierre déclare au chapitre 3 du même livre, lorsqu'il dit au verset 19 « Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. » Donc, le Seigneur était prêt à revenir si ce peuple avait accepté le message d'Étienne. Mais cela n'empêche pas la grâce d'opérer. Sans doute, ceux qui vont être placés sous les lois du gouvernement de Dieu vont en subir les conséquences, car il y a cette loi dans ce gouvernement qui doit s'exécuter selon ce qu'est l'énoncé qui en est donné en Galates 6, « Ce qu'un homme sème, cela il le moissonne aussi. » Et Israël, le peuple de Dieu, va être rejeté. Et c'est ce que le Seigneur dit lorsque, au chapitre 23 de Matthieu, il donne cette parole « Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, vous est laissée déserte, c'est ce qui va arriver maintenant. Le moment est venu, et je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, comment la grâce triomphe-t-elle dans le cas d'Étienne ? Elle est magnifiée à son égard à lui, en ce sens qu'il voit les cieux ouverts, qu'il voit Jésus glorifié. Pour le serviteur fidèle qui n'a pas craint de dire la vérité et toute la vérité jusqu'à la fin de sa vie, il y a une expression de la grâce de Dieu des plus touchantes, à savoir qu'il voit Jésus, qu'il voit la gloire de Dieu. Cela va être pour lui source d'énergie, source de paix, source d'assurance aussi, pour donner sa vie pour son maître. Et la grâce triomphe également dans la manière dont il intercède pour ses bourreaux. Imitant de très près son maître, lorsqu'il peut dire « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », sans doute ce ne sont pas les paroles du Seigneur exactement, le Seigneur dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il y a tout à la fois dans les paroles du Seigneur la dépendance de l'homme parfait et un acte divin qui fait qu'il détache son esprit pour le remettre entre les mains de son Père. Tandis que le disciple de Jésus, le fidèle témoin, lui, formule une prière. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Ensuite, il se met à genoux et écrit à haute voix « Seigneur, ne leur impute point ce péché ». Voilà la grâce qui triomphe toujours. Il intercède pour ceux qui le lapident, sans ajouter, car ils ne savent ce qu'ils font, parce qu'ils n'avaient plus l'ignorance du fait que le discours d'Étienne était très clairement présenté quant à leur responsabilité. Un autre effet de la grâce de Dieu, c'est que il y a là un homme qui est un pharisien, fils de pharisien, et qui assiste à cette scène, qui a sans doute entendu le discours d'Étienne, et qui va être un fruit de cette prière. Saul de Tarse, qui se consentait à sa mort, il nous est dit que Saul consentait à sa mort. Donc, bien d'accord avec tous les bourreaux d'Étienne. Eh bien, au chapitre 9, cet homme est terrassé sur le chemin de Damas et a un contact vivant avec Jésus dans la gloire, qui lui parle, qui s'adresse à lui. Et il se convertit et une nouvelle vie va commencer pour lui. Il va être ajouté au cortège des croyants. Un autre effet de la grâce, c'est que, à l'instar d'Étienne, eh bien, nous aussi, nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Il a goûté la passion de la mort, nous le savons bien, mais il est maintenant vivant dans la gloire, à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Et c'est pour nous aussi la contemplation qui nous est accordée par grâce, par le moyen de la foi. Un autre effet de la grâce à l'égard de cette scène, c'est que il va y avoir une persécution, et l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. Et ces persécutés vont se disperser et annoncer l'Évangile dans les différents lieux où ils vont se trouver. Et ainsi les nations vont être touchées par l'Évangile. Et nous sommes, pour ainsi dire, le fruit de cette prédication de l'Évangile aux nations. Donc, Dieu intervient toujours selon sa justice pour satisfaire les lois de son gouvernement, et cela fait appel à notre responsabilité. Et nous sonde, bien sûr, parce que dans cette scène, le prophète qu'est Étienne dit la vérité jusqu'à la mort. C'est pourquoi, comme on l'a souligné, le ministère prophétique que Paul honore pleinement a toute son importance, à savoir qu'il est à rechercher avec un désir brûlant, avec ardeur, surtout de prophétiser, dit-il. Et le prophète parle au cœur et à la conscience, plaçant les âmes dans la présence de Dieu, en les édifiant, les exhortant et les consolant. Et sans doute, il y a là tout à la fois ce qui fait appel à la responsabilité de tous ceux qui entendent, et en même temps, il y a un effet de la grâce dans cette édification et cette consolation que nous recevons par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il s'agit de ne pas mépriser les prophéties. Sinon, nous pourrions éteindre l'Esprit, et c'est une manière de lui résister. Nous pouvons résister au Saint-Esprit en faisant notre propre volonté. Nous pouvons résister au Saint-Esprit en ne faisant pas la volonté du Seigneur. Cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Nous avons là tout un programme de vie qui nous est offert de façon à ce que nous ayons à cœur, conduit par le Saint-Esprit, de faire la volonté du Seigneur, la volonté du Père. Et pour cela, il est important que nous soyons instruits dans la parole. Nous l'avons déjà souligné, nous ne saurions assez insister sur ce point, que parmi notre jeunesse, il y ait des cœurs qui se soumettent à l'autorité de la parole. Et la bonne manière, c'est d'obéir en premier lieu. Même si je ne comprends pas, le Saint-Esprit me parle par le moyen de la parole, il m'appartient de recevoir ce que Dieu peut avoir à me dire. Et bien souvent, nous comprenons après avoir obéi, car Dieu s'adresse toujours à tout notre être moral, aussi bien notre intelligence spirituelle que notre cœur, que notre conscience. Le cœur a besoin d'être encouragé, bien sûr, nos affections renouvelées, pour pouvoir supporter toute la vérité que Dieu peut avoir à nous dire. Et nous voyons que les paroles d'Étienne dans cette phase terminale de la vie du peuple de Dieu terrestre, et extrêmement, ces paroles sont extrêmement sévères. D'ailleurs, ce n'était pas nouveau. Les hommes avaient pu dire, plusieurs des disciples du Seigneur, que lorsqu'ils entendent ces paroles en Jean 6, déclarent déjà « cette parole est dure, qui peut l'ouïr ». Lorsqu'il s'agissait de manger la chair du Seigneur et de boire son sang, c'est-à-dire de se nourrir de sa mort pour avoir la vie et pour demeurer en communion avec lui. La chair reste toujours la chair. Elle ne peut saisir l'opportunité des paroles de Dieu, qu'elles soient empreintes de grâce suivant l'état de l'âme, ou qu'elles paraissent sévères lorsqu'un prophète parle. Et qui, plus que le Seigneur, était le prophète par excellence, eh bien, il nous appartient dans tous les cas de retenir tout ce que Dieu peut avoir à nous dire. Et les temps actuels sont extrêmement solennels, parce que le Seigneur est sur le point d'enlever son Église. Et il y a au sein de la chrétienté une masse de professants sans la vie, et nous pouvons les côtoyer chaque jour. Et on peut dire qu'un professant qui n'a pas la vie de Dieu résiste à l'Esprit Saint. Le Seigneur a fait allusion à cela. Il ne peut être pardonné à un tel homme. C'est résister jusqu'à la mort au témoignage que le Saint-Esprit rend pendant la période de la grâce à Christ et à son œuvre parfaite. Et il peut y avoir dans nos familles, dans les assemblées, un certain nombre de professants sans la vie. Ils sont baptisés chrétiens, ils appartiennent à la chrétienté, et il n'y a pas encore l'étincelle de la vie divine. Et ces éléments-là résistent pour le moment à ce que le Saint-Esprit peut avoir à dire à ceux qui occupent dans la grande maison une place privilégiée. Ne retenons de ces enseignements d'Étienne la force que le Saint-Esprit affirme dans ses paroles, et que nous puissions être toujours sensibles dans nos cœurs à tout ce que Dieu peut avoir à nous dire lorsqu'il s'adresse à nous par sa parole et son esprit.
Simplement ceci encore sur ces derniers versets, 57. Criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles et d'un commun accord se précipitèrent sur lui. Ils le poussent hors de la ville, ils le lapidaient. Nous pouvons rapprocher cela, on l'a déjà fait d'ailleurs, de ce qui nous est dit en Luc 19. Je lirai simplement deux versets. Le verset 12, c'est ce que le Seigneur dit. Un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Et le verset 14. Or ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent après lui une ambassade disant, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Le témoignage du Saint-Esprit par Étienne s'achève. Il y a, au moment où il a parlé de ces gens incirconcis de col roide, cet endurcissement de tous les cœurs. Il vient comme leur dire, celui qui est allé recevoir un royaume, Christ exalté, Christ dans la gloire, Christ que le ciel a reçu, Christ que je vois debout à la droite de Dieu, il est encore debout, prêt à revenir. Et là se passe ce drame terrible pour le peuple d'Israël. Par cette attitude-là, ils se comportent comme ils s'étaient comportés vis-à-vis du Seigneur. Devant un Seigneur humilié, ils avaient dit, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Ôte, ôte, crucifie-le. » À un Christ glorifié, ils viennent dire par le serviteur, ils vont envoyer par leur serviteur l'ambassade, qui répète inlassablement, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. L'attitude du peuple, de la nation, des grands, des chefs religieux, des chefs civils, de l'ensemble, demeure la même, inchangée. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et le serviteur est mis à mort. Mais la parole de ce serviteur, après avoir dit « Seigneur, reçois mon esprit », ce qui suit est quelque chose de très beau. Le Seigneur, du haut de la croix, avait dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » On ne peut plus répéter cela. Il ne s'agit plus d'un crime par ignorance. Il ne s'agit plus d'un crime par ignorance. Il s'agit d'un crime volontaire. Mais alors la parole du serviteur est celle-ci. Ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Mais après cela, après le rejet du témoignage du Saint-Esprit, pour la nation d'Israël, le ciel se ferme. Comme autrefois le souverain sacrificateur était attendu devant sortir du ciel, le sacrificateur ne sort pas du ciel pour Israël. Et Israël ne peut pas savoir si pour ce péché qu'il a commis le jour de la crucifixion, il ne peut pas savoir s'il y a un pardon possible. Il ne peut pas savoir. Mais il y a, et croyant, c'est pour nous une mission toute particulière. Elle va commencer à ce chapitre 8. Il y a, dans un temps futur, le souverain sacrificateur sortira, Christ sortira, il y aura un résidu. On l'a dit, ceux qui viendront et qui diront « Quelles sont ces blessures à tes mains ?» C'est celles que j'ai reçues dans la maison de mes amis. Quelle repentance ce jour-là pour le peuple d'Israël, pour le résidu repentant d'Israël. Car une grande partie d'entre eux suivront l'Antichrist. Mais pour le jour d'aujourd'hui, pour ce peuple, qu'en est-il ? Il y a, mes frères, mes sœurs, pour eux, comme pour l'homicide autrefois, l'homicide involontaire, comme pour eux, il y a une ville de refuge. Où est-elle, cette ville de refuge ? C'est la chrétienté. C'est la chrétienté. Le devoir du croyant. Le devoir du chrétien vis-à-vis de ce malheureux peuple est de les trouver individu par individu et de leur dire « Venez, venez dans la chrétienté, venez à nous, venez à Christ. » C'est la seule ville de refuge, c'est la seule ville de refuge. Et le message va au-delà. Car une fois que le souverain sacrificateur était mort, celui qui avait été le meurtrier involontaire rentrait dans son héritage. Nous pouvons ajouter ceci. À celui qui vient dans cette ville de refuge, il n'a plus besoin, à plus jamais, de retourner dans son ancien héritage, car un nouveau lui est ouvert. Le ciel même lui est ouvert et devient pour lui, comme pour nous tous, la maison du Père.
J'aimerais faire un dernier appel à tous ceux qui peut-être ne sont pas encore au Seigneur Jésus. L'Esprit Saint nous enseigne que dans le service si précieux de Philippe l'évangéliste, il peut traduire que le passage que l'Éthiopien lisait, c'était Jésus. Est-ce que tous nous pouvons dire aujourd'hui, tous ceux qui sont jeunes, des enfants, des adolescents, peuvent dire certainement Jésus a porté mes langueurs et s'est chargé de mes douleurs, et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé, mais il a été blessé pour mes transgressions. Le châtiment qui m'apporte la paix était sur lui, et par ses meurtrissures, je suis guéri. Y aurait-il quelqu'un ici qui n'aurait pas encore un jeune enfant, un adolescent, une jeune fille qui n'ait pas encore reçu Jésus? Nous vous pressons instamment de ne pas remettre à demain. Vous êtes venu à la réunion. Est-ce que vous êtes venu à Jésus-Christ? Et nous vous supplions, si vous entendez la voix du Seigneur Jésus aujourd'hui, cette voix d'amour, répondez, « Je viens, Seigneur. » Tu m'as aimé d'un amour infini.
Parole, il y a deux modèles qui sont des types du croyant. Le premier, c'est le brigand sur la croix. Et le brigand sur la croix montre toute la manifestation de la grâce de Dieu envers celui qui n'a mérité que la mort. Le Seigneur dit au brigand sur la croix, il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce n'est pas le ciel qui lui est ouvert, c'est le paradis. Il dit peu de choses dans la parole sur le paradis, mais nous savons que le Seigneur y est. Et ça, c'est tout le côté de la grâce de Dieu. Et puis voilà, dans Étienne, nous avons un homme qui n'est pas un apôtre. On l'a dit, c'est quelqu'un presque du commun. Et voilà un homme qui est le modèle d'un croyant qui, sur cette terre, revendique les droits de Dieu, qui est pour Dieu dans ce monde, et qui tient pour lui, qui est un témoin pour Dieu jusqu'à la mort. Quel est son secret ? Bien, il réalise quelque chose de l'association du croyant avec Christ dans le ciel, un Christ glorifié, comme on vient de le dire. C'est le début de, ici en même temps, est introduit ce qu'est l'Église et l'union avec Christ. Et voilà, en réalisant cette union avec Christ, en regardant un Christ glorifié, voilà un homme qui est au-dessus des circonstances, des pires circonstances. Il ne subit pas l'influence des circonstances. Il est là pour Dieu. Étienne a vu Christ dans la gloire. Il y a trouvé toute la puissance. La puissance pour faire quoi ? La puissance pour mourir. Un autre homme a vu Christ dans la gloire, c'est Paul. Il a vu Christ dans la gloire. Il y a trouvé toute la puissance pour vivre. Nous chantons quelquefois dans un grand clic, on a parlé de la grâce qui se manifeste envers Étienne, ici tout particulièrement, et c'est ça pour le croyant. Il suffit de ta grâce pour vivre et pour mourir. Mais souvenons-nous bien qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de témoignage pour le Seigneur, pour Dieu dans ce monde, pour un croyant, ou pour vivre, ou pour mourir, si ce n'est en contemplant et en ayant les yeux fixés sur celui qui est dans la voie. Et cela est tellement important que cela donne, comme je viens de le dire, donne d'être au-dessus de toutes les circonstances. C'est une nouvelle ère qui s'introduit ici, l'ère de l'Église. On est fini avec Israël. Dans l'évangile de Matthieu, sauf erreur, le Seigneur est vu deux fois. Les disciples sont vus deux fois dans la nacelle. Une première fois, ils sont vus dans la nacelle et le Seigneur est avec eux. Le Seigneur veille sur eux. C'est l'ancienne économie. Le Seigneur était avec les siens sur cette terre. Et puis, plus tard, quand le Seigneur est sur la montagne, il prie, les disciples sont seuls. Et le Seigneur leur apparaît. Et Pierre va sortir. Il va sortir de la nacelle. Et il a les yeux fixés sur Christ. Et le fait de regarder Christ le rend supérieur à toutes les circonstances, il marche sur les eaux. C'est dans une certaine mesure ce que fait Étienne ici. Quand nous pensons que déjà il est lapidé, et qu'à ce moment-là, quand il le lapidait, il a toute cette puissance pour... Et il lapidait Étienne, il est dit deux fois, verset 58, il le lapidait. Et au verset 59, il le lapidait. Et nous voyons Étienne alors, qui est soutenu, qui a toute la puissance que le Saint-Esprit lui donne, peut manifester les caractères merveilleux de son Maître. Il suffit de ta grâce pour vivre et pour mourir.
Notre frère vient de dire que Étienne était un homme sur cette terre pour Dieu. Et dans le livre des Actes, nous voyons que, d'une manière progressive, avançant dans la persécution et dans la méchanceté, le peuple, après avoir rejeté le Seigneur, rejette les apôtres et Étienne. Et nous désirons souligner que on est pour Jésus ou on est contre Jésus. Et nous trouvons cette pensée justement dans le livre des Actes au moment des persécutions à l'égard de Pierre et de Jean. On reconnaissait ces deux apôtres, nous dit Actes 4, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Et nous trouvons dans des temps difficiles ces deux classes de personnes, même celles qui portent le nom de chrétiens, on vient nous dire, et qui sont contre Dieu, qui sont contre Jésus, et ceux qui sont pour Jésus. Alors, dans le même chapitre, nous voyons que dans cette prière remarquable de Actes 4, on l'a dit, Pierre a remis définitivement l'épée dans le fourreau, mais quelle est la ressource de ceux qui subissent les assauts, étant des fidèles témoins sur la terre pour Dieu, ils auront à souffrir. Les apôtres auront à souffrir. Ici, nous avons le martyr d'Étienne. Quelle est leur ressource? Et nous pouvons nous poser la question, bien-aimés, si quelque peu, nous désirons suivre le Seigneur. Si quelque peu, les avertissements que nous recevons par les serviteurs de Dieu, qu'il maintient jusqu'au jour de son retour, nous recevons ces avertissements pour nous-mêmes. Et si, comme cela a été dit au début de cette réunion, nous mesurons, et c'est là le profit que nous ferons, la distance qu'il y a, nous dirons chacun, entre moi et Étienne. Mais néanmoins, si le Seigneur nous met à cœur d'être pour lui, nous n'avons pas à cacher que nous aurons à souffrir. Mais alors, quelle est la ressource? Nous la trouvons chez Pierre et chez Jean dans Actes 4. Alors, dans ce passage, il y a un petit mais qui sépare ceux qui frémissaient de rage dans leur cœur et qui grinçaient des dents contre lui. Voilà comment la parole de Dieu les dépeint. Nous savons que le livre des Actes a été écrit par Luc. Et ce n'est pas Étienne qui écrit ceci, c'est Luc. Et il parle de deux catégories de personnes. D'un côté, il y a ceux qui frémissent de rage dans leur cœur et qui grincent les dents contre lui. Un frère depuis longtemps près du Seigneur avait écrit dans la marge de son Nouveau Testament, en face de « il grinçait des dents contre lui », c'est un avant-goût de l'enfer. Et effectivement, sauf erreur, dans l'évangile de Matthieu 6 fois et dans l'évangile de Luc 1 fois, c'est-à-dire 7 fois dans les évangiles, il est parlé de grincer des dents. Et cela, pour un temps futur, pour ceux dont le nom n'est pas trouvé dans le livre de vie écrit, il sera jeté dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et 7 fois, parlant de ce lieu, le Seigneur Jésus parle que là, il y aura des grincements de dents. Il y a donc ici un contraste par ce petit « mais » entre ceux qui étaient pleins de rage et qui grinçaient dedans et Étienne. Et nous retrouvons aussi dans la seconde épître à Timothée ce petit « mais » qui commence d'abord par « toi donc » ou sous-entendu « mais toi ». Et puis chacun nous pouvons lire « dans un temps de ruine, il y a les ressources de Dieu, elles sont données à l'homme de Dieu, Timothée, elles ont été données à Étienne, mais il y a ce petit mais. Ce petit mais qui fait la différence
entre ceux qui sont contre Dieu et entre ceux qui sont pour Dieu. Et sans prolonger, il est parlé de plusieurs lapidations dans la parole de Dieu. Nous désirons simplement en souligner deux. Qui montrent des témoins pour Dieu. Des témoins qui ont compris les choses de Dieu. Un a failli subir la lapidation, l'autre l'a subi. Un passage dans Nombre 14, lorsque Josué, fils de Nun, verset 6, et Caleb, fils de Jephunné, qui étaient d'entre ceux qui avaient reconnu le pays. Voilà, considérez Christ dans la gloire, considérez les promesses de Dieu en reconnaissant le pays promis. Josué et Caleb étaient donc entrés avec foi, plein de foi, pour visiter ce pays de la promesse promise. Et ils se distinguent des 10 autres princes. Aujourd'hui, et nous le disons en pleurant, on entend même parfois des raisonnements dans les vies d'assemblée en disant « Ah bien, il faut choisir les choses qui ont été choisies par le grand. » Mes chers amis, on ne vote pas dans l'assemblée. Nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Et ceci montre bien, heureusement et réjouissons-nous, quand tous les frères, quand toutes les sœurs ont une même pensée dans le Seigneur. Mais il y a des moments où, comme celui de Josué et Caleb, il fallait dire le contraire des 10 autres. Et nous continuons la lecture. Ils parlèrent à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant, « Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. » Nous ne continuons pas la lecture pour écouter. Quel témoignage rendu devant l'opposition. Nous en sous-entendons là, mais Josué et Caleb n'ont pas rendu le même témoignage que les 10 autres. Quel est le résultat? Nous le lisons au verset 10. « Et toute l'assemblée parla de les lapider avec des pierres. » Et ensuite, « Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les fils d'Israël à la tente d'assignation. » Un second cas, c'est celui de Naboth. Naboth, c'était un homme aussi effacé au milieu de son peuple. Mais il gardait dans son cœur la parole de l'Éternel. Et nous trouvons cela dans 1 Roi 21. Nous savons qu'Acab avait convoité la vigne de Naboth. Naboth, pourtant, Acab était le roi. Fallait-il mieux obéir au roi que d'obéir à Dieu? C'est ce que Pierre et Jean ont dit. Faut-il que nous obéissions, que nous vous obéissions à vous, plutôt aux hommes qu'à Dieu? Eh bien, Naboth, il avait le désir d'obéir à Dieu. Acab lui demande sa vigne. Il lui répond, fin du verset 4 de 1 Roi 21, car il lui avait dit, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Sur quel passage Naboth se basait-il pour dire cela? Sur Lévitique 25, verset 15. Voilà donc un homme effacé du peuple qui comprenait que la terre qui était entre ses mains était l'héritage de l'Éternel. Et il s'oppose à ce roi impie, Jézabel, sa femme, le poussant à mal faire. Et voilà un autre témoin qui a été lapidé, mis à mort. Et de faux témoins ont été, pour ainsi dire, soudoyés pour dire du mal contre Naboth. Une autre leçon aussi pour nous, c'est que nous avons à rendre un bon témoignage et ne pas être des faux témoins influencés par ce qu'on pourrait nous présenter.
Attirer notre attention
sur un point particulier concernant Étienne. La fin de l'évangile de Matthieu nous présente le Seigneur rassemblant encore ses disciples, leur parlant. Il s'élève en haut dans le ciel et il nous est dit qu'il s'assit à la droite de Dieu. Bien souvent dans le Nouveau Testament, nous voyons répéter cette position du Seigneur assis à la droite de Dieu. Nous avons lu dans l'histoire d'Étienne que celui-ci, voyant le ciel ouvert, put discerner le Fils de l'homme debout. C'est la première fois et la seule fois, à ma connaissance, que nous voyons cette expression dans la parole, le Fils de l'homme debout. Par ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est rappelé que Dieu n'est pas oublieux, que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre et l'amour qui lui ont été manifestés en son nom. Tel fut le cas d'Étienne. Et nous comprenons quelque peu pourquoi ce témoin dont le sang fut répandu, le premier des martyrs de l'Église, eut de la part de celui qui l'avait servi et servi jusqu'à la mort cet hommage suprême. Le Seigneur se levant pour recevoir son serviteur.
Les deux premiers versets du chapitre 8, c'était simplement pour cette pensée-ci. Ce chapitre 7 se termine par cette très belle vision dont vient parler notre frère et cette expression, la première dans le Nouveau Testament concernant un croyant. Il s'endormit. Il s'endormit. Et le chapitre 8, alors, va commencer par cette expression d'un grand deuil. Un grand deuil. Mais il va se terminer par cette expression tout joyeux. Le deuil succède à la vie, à ce martyr d'Étienne. Et puis, quelques épisodes, et voilà la joie qui revient. Et l'Évangile va alors, c'est un point de départ de l'expansion de l'Évangile à travers la Palestine tout entière et le monde tout entier. Les disciples restaient cantonnés dans Jérusalem, le début du chapitre nous le montre, mais alors des petits, des humbles, des inconnus, comme avait été Étienne au début de son service, vont avoir à cœur de répandre la parole. Et ce chapitre 8, qui nous conduit du deuil à la joie, insiste sur deux choses. L'Esprit Saint et la parole. Et c'est simplement ces deux mots-là que je voulais souligner. L'Esprit Saint, nous le trouvons dans toutes ses activités. Déjà au verset 17, nous pouvons lire ceci. Verset 17, ils reçurent l'Esprit Saint. Verset 28, l'Esprit Saint dit à Philippe. Verset 39, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et cette autre expression, cette deuxième ressource, la parole, qui nous est présentée sous divers caractères, verset 4, ils allaient annonçant la parole. Au verset 12, les bonnes nouvelles, ils annonçaient les bonnes nouvelles, voilà ce qu'elle dit cette parole, les bonnes nouvelles de touchant le royaume de Dieu. Verset 14, la parole de Dieu. Verset 25, la parole du Seigneur. Et enfin, nous trouvons au verset 39, ce qui, verset 36, il lui annonçait ce qui remplit la parole, Jésus. On peut passer par un temps de deuil, on peut passer par un grand deuil, et il y en a eu, et il peut y en avoir encore. Mais le Seigneur reconduira toujours les siens à la joie, parce qu'il laisse entre leurs mains ces deux ressources dont avait su si bien user Étienne, le Saint-Esprit qui nous est donné et la parole qui demeure.